Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, un nouvel épisode de notre série d'entretiens dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Et, originalité, aujourd'hui, nous ne sommes pas avec des cliniciens ou des chercheurs en biologie ou en neurologie, mais avec des sociologues. Donc, nous sommes avec... Gladys Lutznal, pardon. Donc, vous êtes directrice de STUP. Alors, vous êtes sociologue. Vous nous direz ce que c'est que STUP. Bon, on voit le clin d'œil, mais ce que c'est exactement. Et Florian Lombardo, vous êtes sociologue. Et vous serez modérateur de cette rencontre qui aura lieu le vendredi 20 mars à 19h30 à la microbrasserie La Barbotte avec la thématique « Drogues au travail, où en est-on ? » Alors effectivement, on a souvent une image depuis... Enfin, pas depuis quelques années, ça fait longtemps, hein, du travail comme un lieu de violence, de souffrance, de rapport de force, de domination, de choses comme ça. Les syndicats en savent quelque chose. Et puis, mais depuis quelques décennies, il semble que ce soit devenu... Ça a pris d'autres formes, hein, que le rapport de force ou d'exploitation, ou qu'il y a des exploitations, mais elles ont pris d'autres formes. Et on a tous en tête, peut-être, il y a quelques années, les vagues de suicides chez Orange ou des choses comme ça. Et la question devient peut-être plus que d'habitude, qu'autrefois, comment tenir au travail ? Et les drogues sont peut-être une réponse. Alors, peut-être Gladys Lutznal, je crois que c'est vous qui avez lancé la recherche que vous avez entreprise. En tant que psychosociologue du travail et des addictions.
Oui, oui. Cette recherche... En fait, moi, je suis chercheur en psychosociologie du travail depuis une vingtaine d'années sur ces questions, justement. Drogue au sens large, hein, donc ça va, alcool, tabac, médicaments psychotropes, ouais. Drogue illicite, et travail, enfin, santé, travail, et à la faveur de la création de STUB, donc, qui est une association spécialisée en recherche, formation et accompagnement au milieu de travail, donc STUB pour santé, travail, usage de psychotropes et prévention. Avec Florian Lombardo, en fait, on a initié une recherche, j'allais dire, plus ambitieuse ou plus large que les recherches que j'avais conduites précédemment, qui étaient plutôt dans des approches qualitatives, avec des entretiens de professionnels, tout milieu, tout secteur, toute fonction, qui sont aussi consommateurs, problématiques ou non, pour comprendre les liens entre leur santé, leur consommation et leur travail. Et là, l'idée, c'était d'introduire dans la recherche qu'on conduit là donc depuis un peu moins d'un an et encore pour 3 ans, l'idée là c'était d'introduire aussi une composante quantitative, c'est-à-dire de pouvoir mieux comprendre le type de secteur où il y a des consommations, les liens, vous l'avez évoqué en introduction, les liens entre les organisations du travail et les consommations, et pas uniquement avoir des approches statistiques comme il peut y avoir, c'est-à-dire en gros où on sait que la restauration, le milieu de la nuit, la communication, la pêche, l'agriculture, il y a pas mal de consommation. Mais le problème, c'est que ces chiffres-là ne permettent pas de comprendre est-ce que dans ces secteurs, il n'y a pas de la variabilité aussi liée aux conditions de travail, à l'organisation, ce que vous disiez, à la qualité des relations professionnelles, du dialogue social. Et donc, c'est vraiment l'ambition de cette recherche, c'est de comprendre aussi les constructions sociales et organisationnelles dans les systèmes de travail qui participent de la régulation des consommations ou au contraire, qui éventuellement concourent à des consommations, vous le disiez, pour tenir ou pour se remettre des effets du travail ou pour, parce qu'il y a aussi des dynamiques de professionnels qui sont passionnés et qui effectivement... pour conjuguer leur passion et le fait de pouvoir tenir, enchaîner dans l'intensification du travail, parfois dans des écarts entre des objectifs fixés par les employeurs, les dirigeants, d'ailleurs pour eux-mêmes aussi, hein, c'est-à-dire que les dirigeants sont pris eux-mêmes aussi dans cette intensification. Le recours à des médicaments ou à d'autres produits permet, alors à plus ou moins long terme, en tout cas d'avoir des fonctions effectivement de régulation de la santé et de tenir. Donc voilà, en fait c'est vraiment, cette recherche, elle s'inscrit dans une histoire et elle vient vraiment amener des éléments complémentaires et une ambition supplémentaire par rapport à ce que j'avais pu conduire précédemment.
D'accord. Alors, du coup, pour avoir les deux voix, Florian Lombardo, vous avez parlé de dimension historique. Hein. Cette histoire des drogues au travail, est-ce qu'on peut en faire une histoire ? Je pense à des classiques. Alors, ce n'est pas forcément au travail, mais des drogues dans des milieux particuliers. Il y avait un grand classique qui avait... dont le titre et le nom d'auteur m'échappent, qui travaillait sur les usages de la drogue dans les groupes, les musiciens de jazz.
Oui. C'est Baker, a priori. Howard
Baker. Howard Baker, voilà. Hein, Insiders. voilà, Outsiders, d'ailleurs. Bon, donc, est-ce qu'il y a une histoire... À quand on fait remonter les travaux, les premiers travaux sur ces questions-là, la prise de conscience de ça, ça remonte à quand ?
Alors... Question très compliquée, et je pense que je vais me permettre de botter en touche en mentionnant que moi, en fait, à la base, je ne suis pas spécialiste de ces questions de drogue au travail. Moi, initialement, je suis spécialiste de la prévention des comportements suicidaires, et j'ai plutôt une approche sociologique spécialiste sur les questions de santé mentale. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis réorienté vers les questions de sociologie des organisations, et notamment, d'un point de vue plutôt macroéconomique, comment appréhender la question du bien-être dans une société occidentale. Et c'est, en fait, au travers de ces errements que j'ai rencontré Gladys et que j'ai été sensibilisé à la question des consommations, donc j'avais déjà abordé de manière transverse par le passé.
Je vais garder l'idée, ça remonte à quand cette inquiétude ou ce souci du bien-être au travail ? Est-ce que c'est une question vieille ? Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu dans les cours des dernières décennies ou est-ce que c'est aussi vieux que le syndicalisme, si je puis dire ?
Alors moi, j'aurais tendance à dire plutôt aussi vieux que le syndicalisme. Et je pense que, en fait, ça ne peut qu'accompagner le développement du capitalisme, au sens où le modèle capitaliste, du coup, par opposition à son prédécesseur, qui était du coup le féodalisme, implique une individualisation de la personne et de la force de travail, puisque le cœur même, le maillon de réflexion du capitalisme, c'est de dire qu'on a un humain qui vend sa force de travail. C'est une lecture marxiste assez simple, mais qui fonctionne toujours très bien pour comprendre le travail dans notre société. Et par définition, il y a un processus d'individualisation. Et donc, à partir du moment où on a une individualisation, on doit intégrer une réflexion sur cet individu, en fait. Et je pense qu'à partir de là, on peut effectivement l'associer, comme vous le dites très bien, à la naissance du syndicalisme.
Ce souci de l'individualisation, c'est quelque chose que vous retrouvez de façon générale sur ces questions-là ? Parce que je pense là, moi j'ai à côté de moi un livre d'Éric Sadin sur la question de philosophe, donc sur la question de l'individu. Je pense aux travaux de Benassa. Enfin, il y a eu tout un tas de travaux dans les années 70 autour de cette question de l'individualisation depuis les années 70. Est-ce que c'est une dimension importante dans le travail, les exigences qu'on a vis-à-vis d'un individu plus que d'une catégorie socio-professionnelle ?
Oui, alors ça, c'est vraiment au cœur... Alors du travail, effectivement, contemporain, c'est-à-dire que on voit bien une évolution des modalités de gestion et du management, en fait, pour utiliser le terme en vogue, qui construit une organisation du travail et des modalités d'évaluation des hommes et femmes au travail qui, effectivement, individualisent la production. En fait. Et donc, dans cette individualisation, il y a des attentes, il y a un regard sur le travail comme une idée que le travail global dans une équipe ou dans une entreprise serait la somme du travail individuel. Ça vient vraiment mettre dans l'ombre le fait que toutes les dynamiques collectives de soutien, en gros un peu dans la coulisse justement de ce qui est relevé par la gestion et par les travaux Excel, ce qui fait la chair du travail, ça a été complètement mis de côté, voire même atomisé, parce que c'est ce que vous évoquiez. C'est-à-dire que dans la dimension collective du travail, si on regarde en tout cas le travail comme une construction collective, il y a aussi la possibilité de construire des résistances collectives. Donc de s'organiser autrement, de faire front, de créer du rapport de force. Et il y a eu, de manière concomitante, dans l'idée de détruire les rapports de force collectifs, cette individualisation. Et en plus, l'idée aussi, parce que ce n'était pas nécessairement avec une idée comme ça unique de détruire des collectifs, c'était aussi l'idée que finalement, si on optimisait le travail individu, enfin le travail de chaque individu, on optimiserait la somme des activités de chacun. Ça, ce qu'on voit, c'est que ça a des effets extrêmement délétères sur la santé, et donc il y a des liens aussi très directs avec les consommations de substances. Et juste pour terminer, on parle, nous, enfin moi, dans les dernières recherches que j'ai pu conduire avec deux collègues, Renaud Crespin et Dominique Lullier, en fait. Comme on parle d'intensification du travail, avec l'individualisation, on parle d'intensification de soi. C'est-à-dire que ça peut aller du côté de... Alors, peut-être vous parliez de burn-out tout à l'heure, on parle de combustion de soi. Ça, c'est vraiment un concept. Et un corollaire, notamment, qui est travaillé par Dominique Lullier, c'est une congélation de soi. C'est-à-dire que, finalement, dans cette souffrance, on va jusqu'à l'épuisement professionnel et, possiblement, on souffre tellement, mais même sur des souffrances éthiques, parce qu'on est amené à faire des choses dont on ne peut pas débattre avec des collègues, parce qu'à force d'être dans ces logiques individuelles, et ça, on le voit dans les métiers de soins, en fait, dans les métiers avec une forte composante éthique. Alors, aussi dans l'industrie, hein, parce que l'éthique n'est pas uniquement dans le rapport aux autres, c'est aussi dans la manière de faire, même si on est dans la construction, même si on est dans un métier manuel. Donc voilà, donc effectivement, l'individualisation, c'est vraiment une question qui est clé.
Alors, on fait une toute petite pause et on se retrouve pour la suite de ce débat fort intéressant.